clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Bonjour et bienvenue à Grenoble. On est très heureux de vous retrouver pour ce numéro estival des clés de la ville. On a posé nos valises ici dans un écrin magnifique, un écrin architectural, un couvent qui a été recomposé, qui est devenu une forme d'agora où se rencontrent ici les Grenoblois, les Grenobloises. On est ici reçus dans un lieu vraiment magnifique, on en parlera tout à l'heure. Les clés de la ville, comme vous savez, c'est un tour de France où nous rencontrons les maires de France. Nous aimons beaucoup les maires de France. Et je rappelle que cette catégorie d'élus sont les plus aimés des Français. Et Dieu sait que le contexte aussi s'y prête. Et j'y suis, bien sûr, toujours avec mon complice de la première heure. C'est la fin de notre quatrième saison. Oui. Nous entamons la cinquième saison bientôt. Car je vous le dis, les amis, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, nous repartons pour les routes de France dès septembre prochain, où nous serons à Nantes. Bonjour Olivier Marin.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors effectivement, pour cette dernière, eh bien, on va se plonger au cœur des territoires, on va mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est voilà, toujours le grand plaisir et le même principe dans chaque ville de France qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et des témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et donc pour cette neuvième étape de cette saison 4, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, après Limoges, après Laval, après Aix-en-Provence, Montauban et Châtenay-Malabry, c'était la région parisienne, eh bien, on est à Grenoble, reçu par notre grand témoin, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui à nos côtés, Margot Belair, bonjour.
Merci, bonjour, je suis très heureuse également.
Et Margot Belair, adjointe au maire, chargée plus précisément de l'urbanisme.
Tout à fait.
On va aborder avec vous l'habitat et bien sûr les grands projets urbains à Grenoble, ils sont nombreux. On retrouvera nos partenaires. Chaque mois, on a ici, dans une ville, le représentant du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, nous recevrons Maître Aurélie Bouvier, qui est notaire à Mélan. On fera un tour d'horizon et bien sûr, l'évolution des prix, des ventes dans l'immobilier à Grenoble. Pour la séquence « La vie ensemble », nous recevrons Jean-Luc Porcedo, directeur général du pôle transformation et territoire pour le groupe Nexity. L'occasion de faire le point avec lui sur l'activité du neuf à Grenoble, la métropole, mais aussi peut-être évoquer d'autres grands projets, notamment on pense aux Jeux Olympiques, au village des athlètes. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. Chez Elio, on donnera l'état des logements côté performance énergétique à Grenoble et puis bien sûr des conseils pratiques pour bien rénover. C'est ce qu'on verra avec Pauline Dubost qui est responsable des affaires publiques chez Elio. Voilà donc pour ce beau programme.
Très beau programme en perspective et l'idée, mesdames et messieurs, c'est de vous inciter à venir ici à Grenoble puisque le concept de l'émission, c'est bien sûr de développer l'attractivité du territoire, des territoires de cette France dont on parle pas toujours. Et donc notre concept véritablement, c'est que on puisse toutes et tous voir nos très très belles villes. Je vous propose, comme chaque numéro, de regarder un très joli reportage, Margot, qu'on a tourné sur votre ville. C'est tout de suite avec l'édito de Grégoire Daricot.
Chers amis, je suis ravi de vous accueillir à Grenoble pour notre 38e étape des Clés de la Ville. Notre quatrième saison approche de sa conclusion et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans la capitale des Alpes. Alors à tous, merci de nous suivre sur les routes de France, comme diraient Sylvain et Olivier, et bienvenue à Grenoble. Bienvenue donc à Grenoble, ville d'art et d'histoire, un label décerné par le ministère de la Culture et que nous apprécions particulièrement à la rédaction. Il est témoin de la reconnaissance des spécificités de son patrimoine et des initiatives existantes sur le territoire. L'histoire de Grenoble remonte à plus de 2000 ans, en 43 avant Jésus-Christ précisément. On mentionne alors un bourg gaulois du nom de Curalo, situé en un endroit stratégique sur une voie romaine entre Vienne et l'Italie. Au fur et à mesure du temps qui passe, la bourgade se fortifie et accède au rang de chef-lieu. Elle est baptisée Gratianopolis en l'honneur de l'empereur Gratien en 379 et devient petit à petit Grenoble. Au XIe siècle, Grenoble est cette capitale du Dauphiné du Viennois par les comtes d'Albion, une seigneurie qui sera cédée au roi de France à une condition particulière, l'héritier du trône devra porter le titre de dauphin. Une tradition qui va persister jusqu'en 1830, faisant finalement de Grenoble un marqueur important de l'histoire du royaume de France. L'histoire urbaine de Grenoble est assez mouvementée. La ville s'est développée sur un site plutôt contraignant. Imaginez en effet une plaine de 100 km², ce qui équivaut à la taille de Paris intramuros, un confluent décentré d'une rivière, l'Isère et d'un torrent, le Drac, et trois massifs montagneux qui entourent la zone, la Chartreuse qui avance en éperon jusqu'à la ville, le Vercors et Belledonne. C'est pour cela que l'on parle de la cuvette grenobloise. D'un point de vue strictement urbain, l'installation humaine s'est longtemps cantonnée à un regroupement d'habitations sur la rive gauche de l'Isère, en hauteur, à l'abri des inondations. Dès le IIIe siècle, Grenoble est enfermée dans une enceinte de 9 hectares, ce qui limite son aire de développement. Il y aura bien quelques extensions, mais celles-ci seront de faible ampleur, et la cité a une superficie de 36 hectares au XVIe siècle, 45 hectares au XVIIe siècle. Le changement intervient au moment où le Drac commence à être endigué. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle et la construction d'une digue de 8 km achevée en 1684 permet une implantation progressive religieuse ou agricole dans la plaine. À la fin du XVIIIe siècle, Grenoble est une ville de 20 000 habitants, serrée dans son enceinte au pied de la Chartreuse, entourée de villages reliés à la ville. La ville se transforme véritablement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle avec la création d'une nouvelle enceinte fortifiée, l'enceinte Axo, qui ajoute 50 hectares au sud de l'ancienne ville. La croissance de l'activité industrielle et de la population fait pourtant déborder la ville au-delà des remparts, mais Grenoble est toujours considérée comme une place stratégique de première importance. Grenoble est une ville frontière, une place forte en des temps agités. L'inutilité démontrée des fortifications pendant la Première Guerre mondiale va précipiter leur destruction. L'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme en 1925 va servir de prétexte à la municipalité grenobloise pour amorcer leur disparition. En s'appuyant sur un plan d'extension et d'embellissement, elle va supprimer les remparts et permettre la création d'une artère est-ouest, les grands boulevards. Ça y est, la ville respire et les communes de la cuvette sont progressivement intégrées au gré des nouvelles implantations industrielles. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de Grenoble s'accélère. Les Jeux Olympiques d'hiver de 1968 sont une nouvelle occasion d'élaborer un plan d'urbanisme avec l'élaboration de nouvelles infrastructures routières et ferrées et une ossature plus lisible à la ville de Grenoble. Des jeux qui auront placé Grenoble sur la carte du monde, un héritage dont la ville est aujourd'hui très fière. Au fil du XXe siècle, Grenoble s'est développée et modernisée. Elle était un pôle touristique reconnu depuis la fin du XIXe siècle et cela continue. Les premières stations de sport d'hiver fleurissent sur les massifs aux alentours. Grenoble est aussi une terre scientifique, une terre de prix Nobel. Prix Nobel de physique pour Pierre-Gilles de Gennes de l'université de Grenoble en 1991, et aussi un rôle crucial dans les premiers travaux d'un autre lauréat, Albert Michelson. Grenoble est une terre d'inventeurs et d'innovation. Un caractère innovant maintes fois illustré à travers son histoire, à Grenoble vous trouvez par exemple le deuxième plus vieux café de France, le café de la Table Ronde, qui est établi depuis 1739. Vous verrez aussi que la ville a adopté un service de covoiturage, une première mondiale. Vous apprendrez qu'on y a inventé une nouvelle technique de fabrication des gants en 1800. Vous saurez également que Grenoble est une plaque tournante de la science et des hautes technologies avec la présence de l'European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, ou de nombreuses entreprises et start-up technologiques. Bref, vous saurez que Grenoble est une vraie Silicon Valley à la française, implantée dans un vrai écrin de verdure, avec cette vue imprenable sur les hauts sommets alpins enneigés. Une situation qui fit dire à l'un de ses enfants, l'écrivain Stendhal, « Au bout de chaque rue, une montagne ». Grenoble, c'est une ville où il fait bon vivre, une ville internationale, résolument liée aux montagnes qui l'entourent, des Alpes qui ont forgé son caractère parce que cette proximité avec la nature qui l'entoure lui a fait prendre conscience des enjeux liés à notre futur. Une ville idéale pour une vie épanouie que nous vous proposons de découvrir en plateau. Alors à tous, bienvenue à Grenoble.
Bravo. Un reportage signé Grégoire Daricot et Alexandre Burkhardt. Merci à eux deux. Quelques mots peut-être sur le reportage qui donne une image parfois peut-être un peu différente que celle que l'on a naturellement de Grenoble, Margot Belair.
Oui, et je remarque, en tout cas, le reportage est très intéressant. Et par rapport à ce que vous venez de dire, les Grenoblois et Grenoblois sont très fiers de leur ville et connaissent en partie son histoire. Et on a beaucoup d'événements que vous avez retracés sur lesquels on est fiers, qui s'inscrivent dans l'histoire urbanistique de la ville. Hein, vous l'avez dit, les JO, par exemple, de 68, sont un très, très grand moment de transformation de la ville, dont on a encore l'héritage aujourd'hui. Et donc cette fierté, elle s'illustre un peu partout, au quotidien, et je tiens à le dire là, parce que je suis aussi très fière quand je vois ce
reportage. En tout cas, on est vraiment très heureux de mettre la lumière sur votre ville, qui est une ville magnifique, et véritablement, les villes de France ont beaucoup, beaucoup de talent. Alors, oui. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Vous connaissez l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, qui a récemment, vous le savez, fêté ses 20 ans d'existence. C'est un chantier colossal durant ces deux décennies. D'ailleurs, c'est certainement le plus grand chantier civil de l'histoire de France. C'est plus de 11 fois Haussmann, si on devait comparer l'activité de l'ANRU. Ça a été mis en place par un grand ministre du logement qui a marqué durablement l'histoire de notre pays, c'est Jean-Louis Borloo. La réhabilitation, c'est un chantier majeur dans les villes, on le sait. Tout à l'heure, Olivier va vous poser des questions sur la charte locale, notamment sur l'habitat que vous avez mis en place en 2021. On parle de régénération urbaine, on parle de réhabilitation. La première question, peut-être plus générale, que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont aujourd'hui, de ce point de vue-là, vos chantiers prioritaires en matière de rénovation et de réhabilitation ici à Grenoble?
Déjà, ici à Grenoble, on se pose toujours la question de la réhabilitation avant la démolition-reconstruction. C'est vraiment quelque chose qui a évolué dans nos pratiques, et on le voit avec nos partenaires, avant tout ça, parce que le coût écologique d'une démolition-reconstruction est beaucoup plus fort qu'une réhabilitation. On sait que les projets de réhabilitation sont complexes. On a parfois des coûts supplémentaires qui sont engendrés avec ces projets-là, mais en tout cas, on s'attache à d'abord privilégier cette option. Sur les grands chantiers, évidemment, on a, et vous l'avez dit, hein, les grands chantiers de l'ANRU. Nous, on a un quartier, le quartier de la Villeneuve, qui est labellisé éco-quartier populaire, et sur lequel on investit plus de 200 millions pour la réhabilitation de ce quartier, à la fois dans les logements, mais aussi dans la réhabilitation des espaces publics, pour créer des espaces publics réellement apaisés, modernes, et qui répondent aussi aux usages actuels. Il y a le plan de sauvegarde de l'Arlequin, où il y a plus de 500 logements qui sont aujourd'hui réhabilités en quartier populaire. Et puis je pense, parce que ça fait encore écho au reportage qu'on vient de voir, mais le site historique du village olympique est aujourd'hui en réhabilitation, alors morceau par morceau. Ça dépend des copros et des moments, et c'est pas toujours la puissance publique qui le fait, mais il y a des parties qui sont faites par la puissance publique. Et à terme, tous les logements du village olympique de 68 seront réhabilités. Donc ça fait partie des grands enjeux actuels de la réhabilitation urbaine. Et j'aimerais mettre un petit focus aussi sur un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est plus ancien que les JO de 68, c'est celui de la cité de l'Abbaye. Une ancienne cité ouvrière des années 30 qui va être entièrement réhabilitée, à la fois grâce à l'aide de nos bailleurs sociaux, Grenoble Habitat et Actis, mais également grâce à une équipe promoteur architecte, je vais les citer,
Olivier, oui, bien sûr,
qui a répondu à notre appel et qui va réhabiliter ces logements. Et donc, réellement, pour chaque projet de réhabilitation, on s'appuie à la fois sur nos bailleurs et leur capacité à faire aujourd'hui, et sur des partenaires aussi privés. Et on met beaucoup d'argent parce qu'on croit fortement à cet objectif de réhabilitation.
Alors, justement, dans ce prolongement, on voit fleurir dans beaucoup de villes en France des chartes locales sur la qualité de la construction. On voit le label bâtiment frugal à Bordeaux, le label de la construction à Nancy. Il y a énormément de villes qui ont en fait cette charte locale qui n'a pas de valeur juridique, mais en tout cas qui montre un cap pour encourager les bonnes pratiques. Et à Grenoble, vous avez mis en place la charte pour l'habitat et la construction favorable à la santé. Voilà, c'est cette charte que l'on voit. Un urbanisme favorable à la santé qui se préoccupe du bien-être global des habitantes et des habitants autour de leur santé physique ou mentale. Pour élaborer la charte, donc, vous avez travaillé avec les promoteurs, les aménageurs, les architectes, les bailleurs sociaux, les habitants. Vous voulez vraiment marquer votre engagement en faveur de la santé en lien avec la transition écologique. Vous indiquez effectivement la priorité, réhabiliter le bâti existant avant de construire. Et vous avez 14 principes, donc on ne va pas tous les citer, mais en gros, c'est impliquer déjà en amont les habitants, ce qu'on oublie parfois, en tout cas, c'est le minimum de la bonne pratique. De profiter de chaque projet pour réduire les îlots de chaleur urbaines, de veiller à la qualité de l'air, de préserver la ressource en eau, de renforcer la place de la nature, de prévoir la réversibilité en amont, c'est très important, de rendre les chantiers plus supportables pour les riverains, donc établir aussi un bilan carbone de chaque projet. Donc c'est une charte qui a été élaborée en 2021, il y a 3 ans. Quel bilan, et maintenant avec le recul, quand vous regardez dans le rétroviseur et à date, vous tirez à ce que tout le monde joue le jeu sur cette charte locale pour la construction favorable à la santé?
Déjà, je voudrais juste me permettre de revenir un tout petit peu à la genèse de cette charte. La volonté de la ville, c'était de croiser vraiment l'urbanisme et la santé. Et on s'est rendu compte, en faisant ce travail-là, que ça parlait beaucoup plus aux habitants, parce que c'était une notion très concrète, la santé, beaucoup plus que d'autres notions qui peuvent être plus abstraites. Cette charte, elle a 3 grands guides, l'hospitalité, l'habitabilité de la ville et l'inspiration. Et je vais vraiment pointer ce point-là parce que c'est très important. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas une écologie qui donne des ordres, c'est une écologie qui donne envie. Et donc, cette charte, elle n'est pas là pour imposer des nouvelles normes, puisque pour ça, on a des documents cadres, le PLUI, le Code de l'urbanisme. Mais elle est là vraiment pour inspirer pour les futurs projets. Et d'ailleurs, si vous consultez cette charte, et je vous invite à le faire, vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples de projets qui existent déjà et qui ont été faits en lien avec des recommandations de la charte. Très concrètement, cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, on a pu la décliner à l'échelle de 2 quartiers. Sur la presqu'île scientifique, où on a pu redéfinir des formes urbaines liées à l'effet îlot de chaleur urbain, qui a un effet important à Grenoble sur lequel on essaye d'agir, et sur l'écoquartier Flaubert, où là on a carrément, à l'aube de la santé, revu tout le plan masse. Donc ça a vraiment une valeur à la fois pour la ville, puisqu'on se donne nous-mêmes des injonctions en faisant cette charte, et à la fois ça va permettre de travailler, de décliner dans les fiches de l'eau qu'on va pouvoir proposer aux promoteurs des recommandations qui sont particulièrement importantes pour certains quartiers, puisque chaque quartier n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de santé. Et à l'avenir, et on est maintenant là-dedans, après la sortie de la charte, on met en place des ateliers de projet, en lien beaucoup avec la métropole, parce que j'en profite aussi pour le dire, mais la métropole conduit un travail de bioclimatisation de son PLUI, et on sait évidemment que ces nouvelles pratiques ne sont pas encore dans les têtes de tout le monde et ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc il faut qu'on accompagne ces démarches-là. Donc il y aura des ateliers à destination des professionnels, à destination des différents corps de métier, pour pouvoir accompagner ces changements qui sont majeurs pour l'ensemble des professions et puis pour les villes aussi.
Mais également des concertations que vous pratiquez avec les citoyens eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est ce dialogue avec les citoyens, dès qu'on place la santé au cœur de ce dialogue, ça leur parle beaucoup. Et tout de suite, le projet urbain devient beaucoup plus concret et ça devient moins comment on construit des bâtiments et des parcs. Donc on arrive à définir des objectifs et je finirai là-dessus, mais c'est aussi un guide pour les décisions, la décision publique. Oui. Moi, en tant qu'élu, je ne suis pas là pour dire si je préfère le rouge ou le bleu sur une façade. Par contre, avoir des guides très clairs qui me permettent de dire dans tel quartier, on a un déficit en qualité de l'air, dans tel quartier, on a un déficit sur l'alimentation, sur les services publics, ça permet de prendre des décisions éclairées et pas uniquement selon le bon vouloir des élus. Et puis, on a une démarche où on souhaite décliner ce travail d'urbanisme favorable à la santé à l'échelle des quartiers. Parce que chaque quartier est très spécifique et chaque quartier a des problématiques très particulières.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que cette notion de santé, c'est une dimension dans l'urbanisme qui est finalement assez récente en termes de prise de conscience. Et on s'est rendu compte que, alors je ne vais pas revenir sur des copropriétés dégradées ou des copropriétés en péril, mais on sait que le bâtiment, l'urbanisme peut être aussi une arme par destination et qui peut être délétère auprès d'un quartier. On en sent tous quelque chose, surtout dans un contexte où le climat est important. Alors, vous le savez, votre ville est l'une des plus denses de France. Vous avez pris, et on le sait, c'est même politique, beaucoup d'engagement sur les transitions écologiques. Voilà. On va à répéter aussi les mêmes choses. On sait que vous avez une orientation durable, éco-citoyenne. Vous prenez d'ailleurs un urbanisme apaisé. Moi, j'aime bien la vision holistique que vous y mettez, puisque je pense qu'elle reflète assez bien les usages du moment et notre société actuelle. La nature en ville, l'écomobilité, la biodiversité. Et en 2022, vous avez même obtenu le titre de capitale verte de l'Europe. Si je voulais vous demander, Margot, c'est quoi les grands défis du territoire, à l'instar de ce que vous avez déjà construit ?
Vous l'avez dit, un des enjeux majeurs de la ville de Grenoble, c'est qu'on est la troisième ville-centre la plus dense de France, après Paris et Lyon. Je dis ville-centre parce qu'il y a toutes les villes en banlieue parisienne.
C'est important de le rappeler.
Voilà. Mais en effet, c'est un très grand défi. Et cette densité, on l'assume. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec cette densité pour construire une ville qui soit vivable demain. C'est toute la notion d'habitabilité. Les projections climatiques à Grenoble, elles nous prédisent plus de 40 jours de canicule en 2050. Aujourd'hui, en moyenne, on en a 5 par an. C'est des moyennes. Hein. Donc imaginez, et c'est déjà très dur pour les Grenoblois et Grenobloises, parce que c'est des périodes qui sont très compliquées. Alors imaginez 40 jours demain. Alors on n'est pas les seuls dans ce cas-là en France. Mais en tout cas, nous, c'est notre boussole, c'est de se dire comment on va habiter la ville en 2040, en 2050. Et donc, ce qui est important dans des villes denses, c'est d'avoir des espaces de fraîcheur un peu partout. Et un des grands enjeux de notre mandat, c'est de n'avoir aucun Grenoblois, Grenobloise, qui soit à moins de 5 minutes d'un espace vert ou d'un espace de fraîcheur. On y est quasiment, il y a quelques zones...
Quasiment, c'est-à-dire, à peu près, vous en
êtes... il nous reste quasiment deux petites zones où là, on sait qu'on a un petit périmètre qui manque, et donc on est en train de travailler sur la transformation d'espace en espace de fraîcheur, et notamment en parc. Et puis on a vraiment cette volonté aussi de participer à l'effort de limiter l'étalement urbain. La métropole, en 20 ans, et c'est une particularité aussi grenobloise, elle s'est beaucoup étendue. La particularité grenobloise, c'est que c'est visible. Dès qu'on monte en montagne, dès qu'on voit, on passe à 20 minutes de Grenoble, on se rend compte que toutes les villes autour de Grenoble ont fusionné.
Bien sûr.
Il n'y a plus beaucoup d'espace vierge. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à artificialiser ces terres. Donc on doit assumer une densification en ville, une production de logements, on y reviendra, mais aussi la ville, c'est l'accès aux services publics, c'est l'accès à des services culturels, à des écoles, etc. Et donc on limite aussi comme ça les déplacements urbains et l'étalement urbain.
Parce qu'il faut bien absorber cette population, cette démographie qui est plutôt positive, c'est une ville étudiante, donc il y a ces contraintes qui sont parfois opposées, on peut les comprendre, entre une demande de logement puissante, forte, logement étudiant, et ce souci impératif, effectivement, de ne plus trop étaler sur le plan urbain, c'est un vrai défi. Olivier Marin.
Oui, construire à Grenoble avec des matériaux durables dans le respect de l'environnement en étant innovant, en tout cas c'est possible, vous allez nous expliquer. Vous avez récemment présenté le chantier de l'immeuble de bureau Wood, qui est construit, je crois que c'est à l'entrée de la ville et de la presqu'île. C'est le premier immeuble de bureau en bois de Grenoble, majorité bois, je crois que ça n'existait... Non, vous avez...
Alors, il y en a d'autres, des immeubles en bois, mais...
C'est pas le premier, en tout cas,
c'est
premier.
Un des premiers, on va dire ça comme ça.
Construction de ossature bois avec ECDM Architecte et en lien avec la SEM Innovia et la ville. 820 m3 de bois, 350 tonnes de matériaux biosourcés, des locaux à vélo, jardins, des panneaux photovoltaïques, des espaces avec beaucoup de lumière et des belles hauteurs sous plafond. Ça, c'est aussi le témoignage du recyclage urbain. Et puis, il y a aussi des constructions, notamment en paille. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors déjà pour dire qu'on est quand même très fiers de cette construction dont vous avez parlé, parce que ça montre réellement aujourd'hui qu'en France, on peut produire des bâtiments de cette qualité avec ces performances énergétiques-là.
C'est un nouveau mode constructif qui commence à revenir de façon très forte.
Et donc nous, à Grenoble, on est très fiers d'avoir beaucoup, pour ne pas dire quasiment énormément sur nos acs, des innovations de ce type-là. On aime à dire qu'on fait du BTP bois terre paille. C'est un peu notre mimique. On a une école en bois sur Flaubert. On a une autre construction de logements R+9 en zone sismique, structure bois, qui s'appelle le Haut-Bois à Flaubert aussi. On a des bâtiments qui commencent à intégrer de la terre aussi sur nos opérations. Et puis, vous l'avez dit, on travaille la paille. Et la paille, notamment pour l'isolation, soit en réhabilitation, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit sur des nouveaux bâtiments, par exemple l'école des Trembles. Là,
donc
elle
ça,
est
c'est le pôle enfance, les Trembles.
Voilà, ouais. Exactement.
D'accord.
Et en quartier populaire en plus. Donc vraiment l'idée c'est d'apporter les meilleurs matériaux pour un meilleur confort. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une volonté des acteurs d'innover là-dessus. Et donc nous, on est très contents et très fiers d'accueillir toutes ces innovations, de construire avec des matériaux biosourcés. On garde aussi une avance sur les normes nationales, notamment dans nos opérations en ZAC, sur les normes RE, parce que on veut toujours avoir ce coup d'avance et permettre aux innovations d'avancer.
Vous êtes à non plus RE 2020, plutôt 2028, ou sur des objectifs?
Ah, on commence à avoir des opérations de ce type-là, et puis le PLUI bioclimatique pousse des curseurs encore plus loin à venir dans les années à venir. On sait qu'il va falloir accompagner la profession pour ça, mais en tout cas, ça permet après de sortir des bâtiments d'une grande qualité, et notamment pour leurs futurs usagers et usagères. Des bureaux en bois, en fait, c'est beaucoup plus confortable que des bureaux.
On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-Luc Porcédo, effectivement, ces modes constructifs aujourd'hui, ces modes alternatifs, ne répondent pas forcément à 100% de la demande, mais on est sur une mixité opportuniste des modes constructifs, dont fait partie aussi, pourquoi le béton, ça peut être aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a des formules béton bas carbone qui sont utilisées, qui ont beaucoup évolué, on en parlera tout à l'heure. Alors, malgré la compétence de la métropole en matière de logement, la ville de Grenoble a affirmé en mars dernier ses grandes ambitions, effectivement, pour la construction de logements. Par votre voix, la ville a donné d'ailleurs un avis favorable au programme local d'urbanisme, de l'habitat. Vous avez fixé des objectifs ambitieux, comme la construction, vous l'avez annoncé, de 876 logements par an jusqu'en 2030. C'est une nécessité en ce temps de crise du logement. Et je voudrais ajouter, si on devait identifier parfois, vous savez, les élus locaux ont encore des pouvoirs régaliens, encore quelques leviers, on ne l'aura pas tout pris. Il en reste encore quelques-uns. On voit que vous êtes volontariste et pourtant, bien sûr, vous êtes réputé être une collectivité locale, une municipalité écologique. C'est comme ça que vous avez fondé votre campagne, c'est comme ça que vous avez gagné la ville avec le maire Éric Piolle. Et pourtant, on vous affichez cette volonté. Donc, pour vous, la question, ce n'est pas un piège, on peut allier deux, trois notions, celle de la démographie où il y a vraiment besoin de logement, celle de construire, mais construire mieux et intelligemment, et là où il faut. Et enfin, d'avoir ce souci impérieux, et je suis ravi que vous le disiez, à tous les sujets de cette transformation environnementale qui nous impacte tous. Comment vous arrivez à résoudre cette équation ?
On le dit, et ce n'est pas nouveau, il y a une vraie urgence sociale sur le logement. Et actuellement, il y a une grosse crise du logement qui nous impacte toutes et tous. On a sur la métropole 18 000 demandeurs de logements sociaux en attente. Oui. C'est 2,6 millions à l'échelle du pays. Hein. Donc c'est énorme.
C'est énorme.
On a besoin de produire du logement. On a un système d'accession qui est complètement grippé aujourd'hui, qui impacte le système locatif, qui fait que les gens n'arrivent pas à tourner dans les logements locatifs. Et en plus de ça, on a, je me permets de le dire, un détricotage de la loi SRU qui ne va pas favoriser la construction de logements sociaux. Donc oui, il y a une nécessité de produire du logement, tout type de logement. À Grenoble, on favorise plutôt des programmes mixtes. On peut avoir du BRS, du bail réel solidaire, du logement locatif social, du logement intermédiaire, de l'accession libre. L'idée, c'est vraiment de favoriser le logement. Et la métropole, qui est compétente en la matière, hein, pour le coup, s'est fixé des objectifs ambitieux que nous, on partage, d'où le vote favorable pour le PLH. On a quand même appuyé sur quelques points. Déjà, créer du logement, mais le faire bien, d'où l'intérêt de travailler avec les acteurs des chartes qui peuvent nous amener à construire du logement bien, pas forcément ce qu'on a pu faire il y a une trentaine d'années, on construisait des bars et voilà. Et puis, travailler le logement spécifique aussi. On a besoin de logements à tout âge de la vie. Grenoble, vous l'avez dit particulièrement, est une ville étudiante. On a besoin de logements pour les étudiants. C'est très dur aujourd'hui de se loger à Grenoble.
C'est une catastrophe. Hein. Voilà, les statistiques sont effrayantes. D'ailleurs, à l'aube de la rentrée scolaire, vous avez vu les stats, on a déjà, en septembre 2023, on avait 17% des étudiants qui ont renoncé aux études, vous le saviez, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de logement. Et là, les chiffres de septembre ne s'annoncent pas favorables du tout.
Hein. Et c'est terrible, parce que l'impossibilité d'accéder à du logement en accession grippe complètement l'accès au locatif classique. Donc c'est encore pire, ça s'accentue. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, on participe du coup à la construction de nouveaux logements. Le PLH s'est fixé aussi des objectifs ambitieux en acquisition-amélioration, ce qui permet petit à petit de produire du logement dans des quartiers, du logement social notamment, dans des quartiers où il y en avait peu. Et nous, ville de Grenoble, on travaille de concert avec la métropole pour régulièrement utiliser, comme vous le dites, nos pouvoirs, c'est-à-dire par exemple le droit de préemption pour aller chercher des logements dans des quartiers carencés et pouvoir les transformer en logements sociaux. Alors souvent, c'est des ventes en bloc, hein, donc ça se passe assez bien. Et puis, on a une petite vigilance aussi qui est très forte sur la vacance, qui ne réglera pas tous les problèmes de manque de logement, hein, clairement. Il faudra continuer à produire du logement neuf et dans l'existant. Mais la vacance augmente aussi du fait de la crise économique. Et il va falloir aussi travailler à cette résorption.
Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Oui. Ça sera la dernière question,
oui,
Olivier.
Parce que on est quand même, justement, on va être dans le concret là aussi, parce qu'à Grenoble, il se passe quelque chose qui est important et qui va démarrer donc, en ce mois de juillet. Vous l'avez évoqué aussi, les problèmes de pénurie de logement et notamment de location, même on pense bien sûr aux étudiants. À Grenoble, vous allez voir notamment l'encadrement des loyers. Alors, toute la ville de Grenoble n'est pas concernée, mais certains secteurs. Alors, vous allez nous éclairer là-dessus. Et puis, il y a aussi le permis de louer, où il va y avoir des nouveautés dans le domaine. Alors, tout d'abord, sur l'encadrement des loyers, c'est quelque chose de très concret.
Et ce sera la dernière question, on va enchaîner ensuite avec les séquences. Oui. Margot.
L'encadrement des loyers, c'est quelque chose qu'on demande depuis 2014 à Grenoble, qui a été demandé par le Conseil métropolitain en 2020, refusé par le ministère, et puis redemandé en 2022, et cette
Absolument.
Fois-ci accepté. Donc on est très contents. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. On est très contents, c'est une expérimentation hein, quand même, qui aura lieu entre 2025 et 2026, qui concerne, vous l'avez dit, la moitié des logements grenoblois, c'est 60% des logements sur la métropole, et qui va permettre l'encadrement, donc c'est un plafond à ne pas dépasser de 20% au-dessus du taux de référence, et c'est vraiment pour le coup là, l'État qui fixe ce travail-là. Et concrètement, ça interdit vraiment aux bailleurs de pratiquer des tarifs excessifs. Et pour nous, c'est un vrai outil de régulation.
C'était vraiment le cas à Grenoble ? Vraiment, vous avez
oui, il y a des quartiers,
ce problème ?
Oui, il y a des quartiers dans lesquels on avait des excès assez forts et sur lesquels on espère que l'encadrement des loyers...
Des excès qui s'apparentent à une forme de spéculation sur les loyers.
Tout à fait.
Disons les choses, puisque effectivement, Paris a publié ses premiers résultats sur l'encadrement des loyers, effectivement, d'ailleurs, la formule mathématique s'applique également. C'est vrai que ça permet de réguler, et vous espérez effectivement avoir un effet très positif sur la régulation des loyers.
Oui, et j'irais même plus loin. En fait, nous, on serait favorable à un encadrement des loyers sur tous les loyers pour avoir quelque chose qui... Enfin, la spéculation sur le logement, aujourd'hui, n'est pas possible. Le logement est un droit fondamental, on doit pouvoir se loger, et donc il faut qu'on arrive à réguler ça. Peut-être un petit mot sur le permis de louer.
Sur le permis de louer, oui, tout à fait.
Sur le permis de louer, c'est vraiment quelque chose qui est de notre initiative. On a ciblé des secteurs sur lesquels on avait des remontées beaucoup trop régulière sur de l'insalubrité dans des logements. Et donc, on a pris un arrêté, on a mis en place ce permis de louer. L'idée, c'est qu'avant chaque location, le bailleur doit déclarer au préalable à la mairie le fait que son logement n'est pas insalubre.
Avec un certain nombre de critères.
Et avec un certain nombre de critères. S'ils ne le font pas, il y a une amende. Et si le logement est mis dans location sans cette déclaration, il y a une amende aussi. L'idée, c'est quand même d'accompagner les bailleurs, parce qu'on sait aussi qu'il y a des propriétaires particuliers qui n'ont pas forcément toujours les moyens de rénover leur logement. Pour ça, on a des aides. Hein. On a un gros dispositif de rénovation qui s'appelle Murmure, qui est porté par la métropole, accompagné par la ville de Grenoble.
Donc c'est incité, parce que ça peut être contraindre.
Incité, mais il y a quand même des amendes.
Ça peut être aussi la rénovation énergétique. Oui, vous contrôlez. En fait.
On contrôle.
Voilà, oui, vous contrôlez.
Sur certains quartiers spécifiques, l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir une première mise en place.
Vous ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui va sanctionner d'emblée, non. Mais vous vous assurez de la salubrité de logements, parce qu'effectivement, vous luttez comme beaucoup de vos collègues contre l'insalubrité, l'indécence des logements.
L'habitat indigne, et qui est principalement malheureusement à Grenoble, se répercute, on le redit, sur les étudiants qui vont louer des petits logements, parfois indignes.
Ils ne trouvent rien, et dès qu'ils en trouvent un, même si c'est une passoire thermique, ils sont tellement contents d'avoir trouvé un logement qu'ils ferment leur gueule, ils ne disent rien, et puis finalement, ils se retrouvent dans un état
pas
possible.
Ça, c'est plus possible, et l'expérimentation sur certains quartiers va nous permettre de savoir si on peut étendre cette expérimentation, on a quand même un regard très poussé sur éviter un effet d'augmentation massive des loyers aussi. Voilà, on arrive à suivre les deux indicateurs.
Alors, je vous propose que nous entrions d'ailleurs dans le sujet, Margot Beller, et donc ça a eu le mérite de bien poser le débat. Merci encore. Je vous propose que nous enchaînions tout de suite avec nos amis notaires, avec Parlons Bien. Chaque mois, les notaires viennent sur le plateau dans les villes de France pour donner un petit peu le baromètre des prix et comment, effectivement, dans l'ancien notamment, par exemple, on se positionne les prix, soit en prix à la location, en prix à l'acquisition, compte tenu d'un marché qui est quand même sévèrement chahuté. On se retrouve tout de suite après.
Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
Et voilà, de retour ici à Grenoble, dans notre bonne vieille ville de Grenoble, que je vous invite à découvrir, un territoire magnifique, un territoire d'ailleurs cher à l'un de nos intervenants tout à l'heure, c'est notre ami Jean-Luc Porcédo qui va nous parler, puisqu'il a fait ses études ici, il connaît bien cette ville, et on va commencer justement avec les notaires de France. On est ravis d'accueillir sur le plateau Maître Aurélie Bouvier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Meylan, vous allez nous expliquer, on va avec vous égrener finalement les prix de l'immobilier ancien pour savoir quelle est la vitalité du marché grenoblois. Et à cet exercice, c'est notre ami Olivier Marin qui s'y colle.
Oui, bon, il n'y a pas que les prix, on va évidemment faire un tour d'horizon avec vous sur ce marché de l'immobilier ancien. Donc chaque mois, un membre, un notaire représentant le Conseil supérieur du notariat est présent dans les clés de la ville. On est très heureux de vous avoir, Maître Aurélie Bouvier, vous êtes notaire à Meylan.
Oui.
Et avec vous, donc, ce tour d'horizon, l'évolution des prix, bien sûr, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques, c'est important. Alors, quelques chiffres clés quand même pour démarrer. 2500 comme 2500 euros, ça c'est le prix médian mètre carré d'un appartement ancien à Grenoble. C'est une baisse de 2,2% sur un an, mais quand on regarde dans le rétroviseur, on est à 17% de hausse de prix depuis 5 ans. 321 000, ça c'est le prix de vente médian d'une maison ancienne à Grenoble. Est-ce que déjà vous pourriez nous dire, nous indiquer si, comme on l'a constaté dans certaines villes depuis le début de l'année, il y a eu une embellie à Grenoble ? Est-ce que le marché est un petit peu reparti de vente et de transactions ?
Je vais juste peut-être compléter. À l'instant où la vitalité du marché est un peu chahutée, on peut le dire,
oui,
où au mois de juin dernier, la BCE a annoncé une réduction de ses taux directeurs de 0,25. Mm-hmm. Voilà, l'idée, est-ce que votre territoire a été préservé ou pas ? Est-ce que vous subissez, comme le reste du territoire, une crise qui quand même vous frappe durement et frappe durement le marché de l'ancien ?
Oui, la ville de Grenoble ne contredit pas les statistiques que vous annoncez. Malheureusement, effectivement, depuis un an, on constate à la fois une baisse importante du volume des ventes et également depuis quelques mois une baisse mécanique des prix, puisque pour permettre effectivement au marché de s'ajuster, les prix doivent mécaniquement baisser pour permettre aux gens l'accession à la propriété.
Baisse des ventes de l'ordre de 23%.
De l'ordre d'à peu près 20% effectivement, comme sur l'ensemble du territoire.
Sur une année pleine,
oui, tout à fait.
Pas de redémarrage du tout de l'activité depuis quelques mois.
Est-ce que vous sentez des couleurs de...
Alors oui, quand même, il y a quelques signes positifs quand même, il faut rester positif. Il est certain que la baisse du volume des ventes était provoquée, je parle à l'imparfait parce qu'on voit une embellie s'amorcer, c'était quand même provoqué par une politique bancaire, je pense que ça a été dit sur les autres territoires de France, une politique bancaire qui n'était pas du tout favorable à l'accès au crédit, des conditions d'octroi du crédit considérablement durcies. On assiste depuis quelques mois à un léger desserrement de ces conditions d'octroi du prêt. Forcément que le marché réagit toujours un petit peu en décalage. On ne va pas tirer des conclusions optimistes trop hâtives. On constate, cela étant, sur notre territoire, je pense depuis mai-juin, un certain regain en termes de volume de transactions. Il faut rester prudent toutefois. On sait que les clients aiment beaucoup boucler leurs affaires entre guillemets avant les congés estivaux. Je pense qu'on aura plus de visibilité sur le début du deuxième semestre de l'année pour voir si effectivement cette légère remontée des volumes des ventes se confirme.
Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Grenoble, si l'on devait prendre une photo, quelles sont à la fois les spécificités du marché grenoblois et peut-être un focus sur quelques quartiers porteurs particulièrement ?
Oui, les quartiers porteurs, il y a les quartiers historiques comme le quartier de l'Île Verte qui lui, alors s'il faut trouver un quartier qui ne correspond pas aux tendances générales du marché grenoblois, c'est bien celui-là, l'Île Verte qui confirme d'une année sur l'autre sa vitalité. Le quartier de la Presqu'île également, quartier Europol, suite effectivement aux nombreuses opérations de construction et puis à toute la clientèle qui vient travailler sur ce quartier-là, effectivement c'est un quartier porteur. Quartier championné à Grenoble, là aussi, quartier un petit peu enfin, bobo, ce serait péjoratif d'employer ce terme, mais c'est un quartier qui a bien le vent en poupe. Après voilà pour les quartiers de Grenoble, je dirais les plus cotés. À l'inverse, Grenoble, c'est aussi une ville dans laquelle il y a énormément de quartiers populaires qui, eux, font les frais, effectivement, d'un habitat, le disait madame, d'un habitat qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que l'on peut attendre aujourd'hui en termes de décence de logement.
Alors, on parlait tout à l'heure de 2500 euros prix médian au mètre carré, mais j'imagine qu'il y a des écarts importants selon les typologies de quartiers. Pour qu'on se rende compte véritablement.
Oui, tout à fait. 2500 euros, c'est un chiffre... le chiffre médian, c'est plus fiable qu'un chiffre moyen. Mais encore une fois, c'est pas du tout le reflet de ce que l'on peut trouver. Voilà, à l'île verte, on est, je pense, largement à 1 000 euros de plus du mètre carré. Dans des quartiers plus populaires, on peut aller jusqu'à 1 000 euros de moins. Donc il y a effectivement un grand écart entre certains quartiers de Grenoble.
On voit bien d'ailleurs que l'effet de gentrification a pour c'est un phénomène sociologique qu'on essaye tous de lutter contre, pas la mixité, mixité fonctionnelle et mixité sociale, mais on voit bien qu'il y a des quartiers, finalement, c'est très hétérogène. Les moyennes sont, effectivement, vous avez pris ce chiffre-là, alors nous, on ne peut pas s'empêcher de les comparer, puisqu'on vient de Paris, donc forcément, quand on se dit qu'on a un prix médian à 2500 euros, c'est open bar, mais là, franchement, on voit bien de véritables disparités. Comment les propriétaires bailleurs, parce que vous le savez, Margot, les petits propriétaires bailleurs logent une majorité de Français qui seraient éligibles au logement social. Mais ça, vous le savez, c'est 62% du parc locatif privé loue des biens à des personnes qui sont éligibles au logement social, parce que, comme vous le savez, le logement social, malheureusement ou heureusement, peu importe le sujet, mais ne peut pas absorber toute cette demande. Comment ils vivent, finalement, ce poids de normatif absolument inflationniste et une fiscalité qui, franchement, ne les a pas épargnés?
Voilà, vous avez tout dit.
Ces clients que vous voyez, justement.
Non, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on oublie parfois trop souvent que les propriétaires bailleurs privés, ce sont ceux sur lesquels repose la lourde responsabilité de loger les gens. Nous, l'inquiétude que l'on a, c'est effectivement de savoir comment les gens, et particulièrement sur Grenoble, vont pouvoir se loger, alors que paradoxalement, il y a une demande, Madame l'expliquait, il y a une demande de logement croissante, les étudiants, les gens qui viennent travailler sur Grenoble. On a la chance de vivre dans une ville avec un tissu économique qui est hyper dynamique, et pourtant, les gens, effectivement, galèrent pour se loger. Oui, on ne va pas se mentir.
Sans les propriétaires, petits propriétaires, les millions de petits propriétaires qui ont qu'un bien, ils ont juste un petit bien.
C'est pas injurieux que d'être propriétaire d'un bien.
Ils ont un tout petit bien qui complète leur retraite, ils sont artisans, commerçants, ont bossé pendant 40 ans, ils ont une retraite de merde, et puis ils reçoivent un petit complément. Pourquoi pas, c'est bien. Alors, je vois, c'est que ces personnes-là, souvent, désinvestissent, et la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que ces petits propriétaires bailleurs, ils sont tellement découragés qu'ils louent plus, ou alors ils vendent?
Alors, il est certain que les propriétaires bailleurs sont aujourd'hui découragés par tout un arsenal législatif sur le plan civil qui n'est pas forcément en faveur du propriétaire bailleur, mais qui est plus en faveur du locataire, et ça, effectivement, ça coince. Un arsenal législatif très dur sur le calendrier de rénovation énergétique est imposé. Bien sûr qu'il faut rénover, surtout à Grenoble, avec notre parc immobilier ancien qui est très conséquent. Il faut rénover. Le vrai sujet, c'est que les moyens juridiques et financiers ne sont pas du tout à la hauteur pour permettre aux propriétaires bailleurs d'atteindre ces objectifs-là. Et puis, effectivement, vous l'expliquez, des problèmes de fiscalité qui sont difficiles à encaisser pour des petits ou des gros propriétaires bailleurs. En tout cas, les gens ne s'y retrouvent pas et c'est une réelle inquiétude.
Dernière question.
Oui, Maître Bouvier, en cette période justement d'incertitude quand même, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Quels sont vos bons conseils dans le domaine?
Alors, la rénovation énergétique, la prise en compte, effectivement, et de ce que l'on connaît à l'instant T, on investit via les diagnostics qui peuvent être fournis, mais aussi de tout ce que l'on peut prédire à l'aide, là aussi, des nouveaux diagnostics qui sont mis en place. Ça, effectivement, c'est un critère aujourd'hui de sélection qui est très important. C'est amusant, d'ailleurs, parce que ça l'était peu il y a encore quelques années. On avait pour habitude de penser que le DPE, c'était le document un petit peu fumeux qu'on sortait à la vente, mais qui n'avait aucun impact sur le prix. Aujourd'hui, le DPE, il est déterminant sur le prix de vente.
C'est dans la shortlist.
C'est le numéro un, en fait. Ouais. À la limite, tout le reste passe après.
Et c'est même l'instrument de négociation pour le bien.
C'est un instrument de négociation de prix.
Voilà. C'est clair. Un commentaire peut-être, Margot Belair, sur ce qui a été dit avec Maître Bouvier.
Oui, moi, ça me fait rebondir sur ces histoires de DPE. En fait, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est justement d'interdire la location à un certain type de DPE. Ça concerne beaucoup de logements à Grenoble. Mmh. C'est vraiment inquiétant pour le logement. Mais par ailleurs, en fait, il n'y a pas d'aide pour accompagner justement les petits propriétaires. Et les communes métropoles ne peuvent pas tout. On peut filer des aides murmures.
Déjà que vous avez vu fondre vos dotations voilà. Par le pouvoir qui vous les a confisquées.
Il y a un reste à charge qui est quand même
Il y a un reste à charge qui est important. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on ait une aide massive pour la réhabilitation de tous les ménages, pour éviter justement les passoires thermiques, et un reste à charge zéro pour les ménages les plus faibles. Parce que ce que vous dites sur les propriétaires qui n'arrivent pas à rénover, ce n'est pas normal. Il faut pouvoir les accompagner. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir quelque chose de vertueux. Mettre des normes, si on ne met pas d'accompagnement avec, c'est sûr que là, on va droit dans le mur.
On est d'accord.
Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Bravo.
Merci. Merci, Maître Bouvier.
Merci. Reste avec nous. Merci, Maître Aurélie Bouvier. Je vous propose, les amis, voilà, si vous prenez l'émission en route, nous allons aborder maintenant la transformation des territoires, si vous voulez bien. On va penser aussi de l'aménagement, de la construction de logements neufs, représenté par Jean-Luc Porcédo, directeur général du pôle transformation des territoires de Nexity. C'est tout de suite après ça.
Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
Les amis, la vie ensemble, c'est avec Nexity. La vie ensemble, je trouve que le titre, déjà, me plaît beaucoup pour une ville harmonieuse, apaisée, dans un pays laïque, démocratique, républicain. Ça, tous ces mots-là qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Bonjour Jean-Luc Porcédo.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Vous êtes le patron du pôle transformation des territoires pour Nexity. On peut le dire, Nexity qui a comme ADN le logement pour tous.
Tout à fait, et
le logement des Français avec vraiment un engagement très fort. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est justement comment se porte le marché de la construction dans la région et quelle est votre analyse du territoire. Vous qui avez une particularité, vous maîtrisez parfaitement les aménagements territoriaux, c'est votre ADN.
L'ADN de départ de Nexity, c'est le logement abordable et le logement pour tous. À la création, à l'origine de Nexity, c'est l'engagement dans les quartiers populaires. Et devenir promoteur dans les quartiers populaires, on est toujours le premier promoteur privé à intervenir sur les zones en rue. C'est comme ça que se crée et que démarre l'histoire de Nexity avec Alain Dina. Et que poursuit aujourd'hui Véronique Bédague, le logement abordable, ça reste entre guillemets la cible et le moteur prioritaire du groupe Nexity et de toutes les équipes. Et je salue ici les équipes de Frédéric Marchal qui est le patron de la région Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais vous l'avez un peu abordé avant moi, donc je vais pas revenir sur tout ça. Le marché de l'immobilier traverse une crise comme on n'a jamais connue, qui est une crise, on va dire, à la fois structurelle de l'offre et de la demande. C'est une crise foncière, c'est une crise des coûts de travaux, c'est une crise des taux d'intérêt, c'est une crise des prix de sortie.
Pourtant, on a besoin de construire, Jean-Luc.
Alors, nous, on dit matin, midi et soir que les opérateurs de l'immobilier, ils sont là pour répondre à une demande d'abord sociale et politique du territoire. On a eu, Véronique Bédague, maintes et maintes fois l'occasion, à travers le CNR, à travers l'expression publique, de revenir sur les besoins de logement. Les besoins sont énormes, aussi bien, et vous le disiez tout à l'heure, dans le logement social, dans toute typologie de logement, le logement privé, dans la maison individuelle, dans le collectif, sur l'ensemble du territoire. Le besoin, il est, je crois, partagé par tout le monde, et peut-être, bien sûr, par les acteurs économiques que nous sommes, mais aussi par les élus, et bien évidemment par les hommes et les femmes qui cherchent du logement. Le problème de la crise profonde que l'on traverse, c'est que toute la chaîne de l'immobilier est à l'arrêt. Il faut avoir en tête que 50% de la production du logement social est produite grâce à des opérateurs privés. Et bien évidemment, portée par les collectivités et leurs élus. Mais c'est une partie, on va dire, du logement social provient de la production privée, puisque dans une opération, et vous le disiez aussi tout à l'heure, qu'on va dire mixte, en termes de programmation de logements, il y a des logements en accession, il y a des logements intermédiaires, il y a du BRS, bref, il y a toute une typologie de programmation et, bien évidemment, du logement social. Et quand la crise est à tous les étages, les productions s'arrêtent, se ralentissent. Là, aujourd'hui, elles sont fortement en baisse. Et surtout, le parcours résidentiel devient quelque chose, on va dire, pour lequel l'ensemble, une partie de nos compatriotes n'ont plus accès. Et c'est ça le problème. C'est vrai, vous le disiez, pour les étudiants. Il y a un besoin énorme de logements étudiants sur, on va dire, le bassin grenoblois, mais dans toutes les métropoles de France. Au point, et tu le disais tout à l'heure, Sylvain, que des étudiants ne poursuivent plus leurs études parce qu'ils n'arrivent pas à être logés, ce qui est quand même un immense gâchis.
Oui. 17%.
Mais c'est vrai sur, on va dire, toute la chaîne du parcours résidentiel, parce que d'abord, la crise est forte, et puis aussi parce que, on va dire, la pression, qu'elle soit démographique ou sociétale, est très très forte. Aujourd'hui, on a des modes de fonctionnement, des modes de vie qui ont changé. On a des vies qui sont plus fragmentées qu'elles ne l'étaient il y a une trentaine d'années. On est étudiant, on est logé étudiant quand on y arrive, on part de sa cellule familiale, on constitue une cellule familiale. Des fois, parfois, c'est la vie, elle se décompose et elle se recompose. Bref, qu'on a des vies beaucoup plus séquencées. Il y a de la mobilité forte aussi dans les nouvelles générations. Et que face à tout ça, il faut que la production de l'immobilier et de la ville, parce que c'est comme ça, je pense qu'il faut l'aborder, se transforme. Alors, nous, c'est notre métier, la fabrique de la ville. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une ville qui est marquée par l'histoire urbaine et marquée par, par l'aménagement et l'urbanité qui est le point de départ de la construction d'une ville.
Grenoble. Mais il faudrait une volonté politique avant tout. Qu'est-ce qui ferait, et ça on l'entend beaucoup, mais qu'est-ce qui permettrait de fluidifier, d'aller plus loin? Est-ce que c'est une volonté politique déjà au départ?
Alors, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'à la fin, nous on le dit tout le temps chez Next City.
D'où la réponse politique? C'est la réponse locale ou c'est la réponse nationale?
Je pense que c'est concomitant des deux côtés ou des deux niveaux, comme on veut, mais aussi du côté des régions, des départements, des intercommunalités. C'est tous les acteurs publics qui doivent se mobiliser pour la réponse ou les réponses sur le logement. Nous, on a l'habitude de dire chez Next City, notre prescripteur, il n'y en a qu'un, ce sont les élus, les hommes et les femmes qui dirigent les villes, parce qu'en fait, on est fabricant de villes, mais on le fabrique pour nos partenaires et en direction où, on va dire, des hommes et des femmes qui vont y habiter, quel que soit le logement. Donc, la volonté, elle est déterminante. La ville, l'immobilier, l'économie en général n'aime pas les périodes de doute. C'est un euphémisme de dire qu'on est dans une grosse période de doute qui va donc accentuer potentiellement une crise. Mais on est aussi, on va dire, dans l'addition depuis 2-3 ans de crises qu'on n'avait absolument pas imaginées. Je pense à la guerre en Ukraine, je pense à la hausse, mais qui est liée à des coûts des matériaux, des coûts de construction derrière. Je pense à l'évolution extrêmement rapide des taux d'intérêt, non pas qu'on avait, je crois, personne en tête sur un système économique où l'argent est gratuit. Ça n'existe pas. Simplement, il y avait de l'argent presque à zéro, et en l'espace de 4 mois,
on a vécu une période qui était quand même clairement anormale, avec un taux d'intérêt où on prêtait gratis. Voilà.
Je crois qu'il faudra... Il y a une urgence, et en même temps, il faut un peu de temps pour répondre. Alors, il y a plusieurs moyens de répondre. Il y a travailler sur la densité, il y a travailler sur la réhabilitation, il y a travailler sur la régénération urbaine. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on ne construit plus comme on construisait il y a quelques années, et surtout, on ne construit plus aux mêmes endroits.
Alors, justement, je vais profiter de votre connaissance du territoire, parce que vous êtes natif de Grenoble. Pas natif de Grenoble, mais vous avez grandi, fait vos études à Grenoble, vous connaissez très bien ces territoires. Il y a deux sujets sur lesquels je voudrais qu'on entre, pour ceux et ceux qui nous écoutent, sur les prix. Je reprends les chiffres moyens du prix au mètre carré neuf. Ils oscillent au premier trimestre 2024 entre 4 640 euros du mètre carré à 4 900 euros du mètre carré en moyenne, prix au mètre carré de l'offre, parking inclus. Ça reste quand même un prix qui est un prix de sortie qui est quand même relativement correct.
On va dire, correct
quand on fait la pesée moyenne des mètres carrés qui sortent. Je vous poserai la question tout à l'heure, Marco Belair, justement sur le fait que est-ce que vous persister à construire, et preuve que oui, puisque vous fixez un cap là-dessus. Justement, ces prix, Jean-Luc, vous aviez indiqué que le coût des matériaux, vous n'avez pas beaucoup de prise dessus, sur le coût de construction, puisque vous avez deux facteurs de coût, le coût des matériaux et le coût du foncier. Sur quoi vous avez, vous, la main, et comment, à l'instar des modes constructifs que vous utilisez, notamment, on parlait de bois tout à l'heure, ça m'a fait penser à ce que vous développez actuellement avec Ewood de façon très développée, ainsi que la production hors site, comment on peut, Jean-Luc Porcedo, devant l'adjointe au maire délégué à l'urbanisme, penser le logement abordable comme c'est l'ADN de Next City, compte tenu de ces deux facteurs?
C'était une multitude de réponses. Nos métiers, c'est... pas simple, parce que rien n'est simple dans l'immobilier de la fabrique de la ville, mais mon métier, c'est trois composantes. Le prix du foncier, le prix, les coûts de travaux et le prix de sortie. Si le prix du foncier augmente, les coûts de travaux augmentent, le prix de sortie, forcément, il va augmenter et ça touche une difficulté parce qu'il n'est plus abordable du tout. Le prix de foncier, un opérateur de la ville, un opérateur d'immobilier, il a peu la main dessus. Ce sont plutôt les propriétaires privés et les collectivités, voire l'État. Moi, je peste toujours quand je vois la puissance publique et les outils de l'État faire de la surenchère foncière pour...
carrément.
Bien sûr, pour rééquilibrer leurs actes, par exemple, qui demandent aux opérateurs « Ah oui, mais il faut telles ambitions, telles ambitions, telles ambitions, telle qualité. » C'est justifié de demander ça. Mais moi, je ne suis pas magicien, mes collègues non plus, pour atteindre ces ambitions, il faut qu'il y ait, entre guillemets, une capacité à écouler derrière. La crise aujourd'hui, c'est aussi la crise de l'écoulement, tout simplement parce que nos concitoyens n'ont pas les moyens d'acheter. Mais il faudrait que tout le monde soit responsable, et quand je vois soit la puissance publique, soit des opérateurs publics, je ne vais pas les citer, vous imaginez à qui je pense, propriétaires de grands fonciers autour des gares, qui vont chercher de l'assurance chère foncière, ça pose un problème. Quand par ailleurs on est confronté, comme on l'a été dans les dernières années, à une augmentation des coûts de travaux, c'est ni les collectivités, ni l'État, ni les opérateurs. C'est comme ça. La guerre en Ukraine, ça a, à un moment donné, augmenté ce qu'on appelle le BT01 de manière épidermique jusqu'à 30%. Il faut bien qu'on l'intègre, parce que ça fait partie du coût de construction. Donc on essaye de jouer sur plusieurs choses. On joue sur, on va dire, la réduction des temps de travaux et de chantier, parce que c'est une manière...
Le hors-site qui se développe de plus en plus.
Par exemple, avec le hors-site. On essaye de jouer sur, comment dire, je ne crois pas à un matériau qui va nous permettre de... Et nous, on l'a beaucoup vécu, on va dire, dans la livraison du village olympique. Donc, on essaye de jouer sur le mix matériaux. Béton bas carbone, bois, béton de chanvre. Voilà, tout à l'heure, vous parliez de paille. On essaye de mixer des matériaux. Alors, toujours biosourcés, bien sûr, mais surtout géosourcés. Pourquoi ? Parce que c'est la distance entre la production du matériau et le chantier qui permet parfois de réduire les coûts. On essaye de, on va dire, mobiliser des... nouvelles formes de partenariat aussi avec des investisseurs qui n'étaient pas forcément dans la fabrique de la ville antérieurement. Et puis on essaye surtout avec les collectivités de trouver les bons moyens de répondre le mieux possible à la multiplicité de la demande. Vous parliez de BRS, c'est un moyen de préserver du logement abordable, à condition qu'à côté il y ait aussi à la fois les outils publics, les offices, mais aussi, on va dire, du logement en accession libre qui permet parfois d'absorber. C'est le même principe que le privé absorbe une partie de la production du logement social. Il faut aussi, voilà, c'est une multitude de réponses. Alors, on y arrive des fois s'il y a une dynamique de production. Aujourd'hui, on est quand même plutôt à un ralentissement un peu brutal depuis 2 ans. On s'en aperçoit là depuis quelques jours, parce que tout le monde a une nouvelle idée pour relancer le logement et l'immobilier. C'est dommage, mais ça fait 2 ans et demi qu'on râle vraiment, parce que je crois que c'est comme ça que je résume les interventions de Véronique Bénac. On râle sur qu'est-ce que fait la puissance publique.
Et justement, quel est l'état de la construction neuve à Grenoble? Est-ce qu'il y a des projets immobiliers qui sont arrêtés, reportés, voire décalés dans le temps?
Alors justement, je vais compléter la question. C'est justement à l'égard de ce que vient de nous dire Jean-Luc, on voit bien qu'à un niveau de volonté politique, vous ne pouvez pas tout faire.
Oui, évidemment.
Je vous voyais opiner du chef positivement sur ce que disait notre ami Jean-Luc Porcedo.
Oui, j'abonde notamment sur la surenchère de l'État sur ses propres terrains qui, des fois, dans nos collectivités, c'est du délire. Donc vraiment là-dessus, voilà. Il y a la question foncière, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Et c'est vrai que le foncier, il se fait de plus en plus rare, et notamment en ville. Et il va aussi falloir que le périurbain se transforme aussi. La volonté de faire dans les villes, elle est là, mais il va y aussi. La plupart des friches et des grandes friches à venir sont dans le périurbain. Et là, on aura un peu de matière à faire. Et puis l'État aujourd'hui. L'état de l'immobilier. Enfin, on est sur. C'est clair qu'on a vu le ralentissement. Moi, j'ai porté des projets en consultation promoteur il y a plus de 4 ans maintenant, et ils sont toujours pas sortis. Donc, on a vu des projets s'arrêter.
Ils sont pas sortis. Pourquoi?
Non, mais c'est pas parce qu'ils ont des difficultés de commercialisation. Ah.
Oui, voilà. C'est pas vous la municipalité qui est bloquée. Vous signez les permis de construire. Par contre,
c'est-à-dire qu'on a des permis qui sont signés, mais des fois derrière, il y a des difficultés de commercialisation. Alors oui, nous, on a certaines exigences, on ne s'en cache pas. Et des fois, on propose un dialogue. On est dans de l'urbanisme négocié, donc on a un travail de dialogue avec les acteurs pour arriver à un permis qui convienne à la fois à tout le monde et que chacun puisse s'y retrouver. Mais force est de constater quand même que le ralentissement, en fait, la crise du logement, amène le principal ralentissement, qui est la commercialisation. Il y a des projets qui n'arrivent pas à se vendre.
Ça concerne beaucoup de projets. Quand vous dites que des projets ont été arrêtés, c'est une dizaine, c'est
arrêtés
une vingtaine.
Arrêtés ou transformés. Il y a des programmations qui ont été transformées dans des projets. Il y a des projets sur lesquels il devait y avoir de l'accession. Et il y a eu des ventes en bloc qui se sont faites.
Ouais.
Il y a des projets sur lesquels on a positionné du BRS parce que c'est des produits qui arrivent à se vendre. Il y a des projets qui ont été retravaillés. Il y a aussi des projets, malheureusement, qui ont dû revoir certaines de leurs ambitions à la baisse pour pouvoir rentrer dans leur bilan. Tout bouge. Alors après, il y a des projets qui sortent. Hein. Alors, tout n'est pas à l'arrêt non plus.
Justement, on parlait de l'offre tout à l'heure, et cette offre, elle s'est littéralement effondrée, mais je rajouterais juste, à côté de l'effondrement de l'offre, c'est l'effondrement de l'offre solvable. C'est-à-dire que le problème de solvabilité de ceux qui accédaient à la propriété, et d'ailleurs, c'est votre ADN, hein, Jean-Luc Porcet d'Auchet d'Excity, aujourd'hui, vous avez été effectivement coincé dans une équation qui est difficile à résoudre, entre la hausse des coûts de construction et puis un contexte exogène politique que vous n'aviez pas vu forcément, que personne n'a vu arriver, qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un sujet. Parce que la demande, vous êtes d'accord, Jean-Luc, elle est toujours aussi forte. Sauf que les personnes n'ont plus les moyens d'y accéder.
Ah oui, je confirme. Puissance 10, une partie de mon métier, c'est de discuter, d'échanger et de travailler avec des élus. Moi, aujourd'hui, des élus que je rencontre me disent, dans mes permanences, la seule demande, c'est le logement. Avant, j'avais une place en crèche, le logement. Aujourd'hui, je n'ai logement. Pour moi, pour mon fils qui est étudiant, on est vraiment dans un état de crise profonde et difficile pour nos concitoyens. Et l'addition d'un certain nombre de choses. Alors, on a beaucoup râlé, par exemple, sur la fin du PTZ, parce que c'était un levier pour les populations les plus modestes et les jeunes d'accéder au parcours résidentiel. Je crois que c'est ça le sujet, c'est de réenclencher le parcours résidentiel, quel qu'il soit, du logement social, parfois de la maison individuelle, même si on est complètement d'accord aussi qu'il y a des enjeux climatiques. C'est notre responsabilité aux côtés des élus d'anticiper ce qu'on fait. Frédéric Marchal sur Lyon, sur Confluence, a développé et en train de livrer en termes de travaux, le premier immeuble en France, sans chauffage, sans climatisation. Donc c'est une...
Et aussi le village des athlètes que vous avez...
Recherche appliquée en temps réel.
Le village des athlètes, c'est génial, c'est un permis à double entrée, finalement. Alors, vous allez le livrer deux fois, pour le village des athlètes...
Pour les sportifs et après pour les hommes et les femmes qui vont habiter.
Génial.
Le village des athlètes, c'est projeter la manière dont vont vivre nos concitoyens en 2050. C'est ça le fil rouge des modes constructifs, alors avec des poteaux-poutres, on va dire bois-béton, des façades particulières, parfois du béton de chambre. Donc on est aussi...
C'est
à la fois
innovant.
Dans la production industrielle et en même temps, sur un certain nombre de projets, dans de l'extrême innovation sur les modes constructifs et sur, parce quand même nous sommes une entreprise, sur la réponse à nos clients. Ce que l'on fait sur Lyon à Confluence avec ce qu'on appelle l'immeuble essentiel, sans chauffage et sans clim, c'est aussi une réponse pour le client tertiaire. Alors là, on le fait pour le logement, mais c'est aussi pousser cette innovation.
Oui, le temps nous est compté. Voilà, je voulais conclure. Peut-être un mot de commentaire sur ce que nous a dit Jean-Luc Porcelot.
Oui, deux petits mots. Si je peux me permettre. Le premier, c'est le paradoxe en fait, et je pense qu'on a aussi besoin de pédagogie entre ce besoin de logement qu'on ressent. Tout le monde nous dit, on n'arrive pas à trouver de logement, et cette difficulté qu'on peut avoir à construire en ville. Et il faut qu'on arrive aussi à travailler ce dialogue-là. C'est pour ça qu'on prône un dialogue entre les citoyens et les constructeurs, parce que c'est souvent un paradoxe. On veut du logement pour ses enfants, mais on ne veut surtout pas construire des petits collectifs.
L'acceptabilité est un vrai sujet.
Et en plus, le foncier, quand on le vend très cher.
Ouais.
Donc, et mon deuxième point, c'est sur le village olympique. J'aime beaucoup, parce qu'à Grenoble, le village olympique, en 68, il a été construit dans la même perspective, c'est-à-dire... héberger les athlètes et ensuite se transformer en logement. Et c'est aujourd'hui le cas. Alors maintenant, il va falloir qu'ils trouvent une troisième vie. Hein.
Ah oui.
Mais en tout cas, il a été construit dans la perspective de se transformer en véritable quartier. Et je trouve là qu'on a un beau pont entre 68 et aujourd'hui.
Sylvain le disait, moi j'ai grandi à Grenoble. J'ai habité au village olympique, j'ai habité au collège au village olympique, j'ai habité à la ville. Et Grenoble a cette tradition de on va dire, d'être pilote en avance sur les sujets urbains. Moi, j'ai grandi quand j'étais ado avec une petite musique qui s'appelait Hubert Dubedoux sur la participation des habitants. L'expérience de la Villeneuve était de l'école émancipée. Enfin, toutes ces choses-là étaient dans l'innovation urbaine et sociale. Parce que c'est aussi ça le sujet dans les métiers qu'on fait, c'est de retrouver de l'urbain et donc de la fabrique de la ville et du social.
Merci beaucoup Jean-Luc Porcelot. Applaudissements pour Jean-Luc Porcelot. Vous restez avec nous. Merci pour cette séquence. On est bientôt au terme de cette émission. On va faire une dernière séquence majeure, importante. On va parler de rénovation énergétique. C'est vraiment la dent creuse aujourd'hui dans les villes. C'est un vrai sujet qui concerne absolument tout le monde. Vous restez connectés. On se retrouve dans quelques instants.
Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
bien mieux ici à Grenoble, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus, venez visiter la ville de Grenoble, c'est magnifique. On est très heureux d'être ici avec l'hôte de ces lieux, l'hôtesse de ces lieux. Et merci à elle d'avoir participé à cette émission et d'y participer encore pour cette dernière séquence sur la rénovation énergétique. Merci Margot Belair. Vraiment un environnement magnifique, le Minimistan.
Oui, tout à fait.
C'est bon ça, le Minimistan. J'adore le truc. Et en plus, on est très poète ici, aux clés de la ville, n'est-ce pas, Olivier ?
Absolument.
On dit la vie ensemble, bien mieux, parlons bien. C'est bien, je trouve ça bien. Alors, bien mieux avec notre invité qui est responsable des affaires publiques chez Lio, acteur majeur de la rénovation énergétique, tant avec les collectivités locales que les immeubles d'habitation et aussi le secteur tertiaire. Je suis ravi d'accueillir Pauline Courbet-Dubost. Comment ça va, Pauline ?
Très bien, et vous ?
Vous êtes superbe, merci d'être avec nous. On va parler de rénovation avec vous, énergétique. Question, Olivier Marin.
Peut-être déjà, Pauline, pour démarrer, déjà rappeler, expliquer le rôle d'Elio en matière de rénovation énergétique et sur l'accompagnement, c'est très important.
Tout à fait. Donc Elio, c'est une société qui est experte dans les solutions de maîtrise de l'énergie et qui met toute son expertise au service des consommateurs d'énergie pour faire baisser leurs factures énergétiques. Donc concrètement, ça se matérialise par une ingénierie technique, avec de l'accompagnement et du conseil, par exemple, sur la phase d'audit énergétique ou éventuellement la mise en conformité avec les obligations réglementaires, doublée d'une ingénierie financière, parce que c'est le nerf de la guerre, et avec la mobilisation des aides tant privées que publiques, pour arriver à faire baisser ce reste à charge.
Changement d'assemblée, des propositions de loi, des projets de loi qui sont à l'arrêt. Quelles conséquences ça a sur la rénovation énergétique ?
Pour une filière qui réclamait stabilité, visibilité et investissement, j'avoue que c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé pour ce second semestre. C'est vrai, la dissolution de l'Assemblée nationale a rendu a priori caduques les différents Texte. Projets de loi et propositions de loi qui étaient en cours d'examen, et on en avait. On avait le projet de loi simplification de la vie économique qui impactait notre filière, la proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique à l'Assemblée nationale, et une proposition de loi de programmation nationale pour le secteur de l'énergie au Sénat. On ne sait pas du tout quel va être l'avenir de ces textes. A priori, ils sont caducs. On a une petite chance peut-être pour la proposition de loi au Sénat de la voir redéposée, enfin en tout cas inscrite à l'ordre du jour de la nouvelle Assemblée nationale à la rentrée. Et dans le même temps, côté politique, on avait une concertation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone qui est reportée. La présentation des arbitrages pour la sixième période des certificats d'économie d'énergie qui est reportée. Et on nous avait promis un projet de loi antifraude pour le second semestre, dont l'avenir est a priori quand même assez compromis.
Donc beaucoup de choses reportées
Exactement.
À la rentrée, pas encore beaucoup de visibilité.
Un nouveau temps d'arrêt.
Alors qu'on a besoin de plus
Exactement.
En plus d'accompagnement, de transparence dans le domaine. Où en êtes-vous justement par rapport, on prend un peu de recul par rapport au début d'année, sur tout ce qui est même MaPrimeRénov', l'adaptation, parce qu'on a entendu dire qu'en fait, ça s'arrêtait un peu. Justement, qu'il y avait de moins en moins de demandes dans le domaine. Où
Alors,
en est-on ?
Il y a eu une très, très grosse réforme du dispositif MaPrimeRénov' entrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui a impliqué une nécessaire restructuration de la filière et de l'ensemble des acteurs, notamment sur les sujets de rénovation globale, avec la présence obligatoire de l'accompagnateur Rénov', qui a créé un délai incompressible. Donc ça, le manque de dossiers, ou en tout cas la chute du nombre de dossiers, on peut l'expliquer assez facilement comme ça. Il y a eu une réforme qui est entrée en vigueur par voie réglementaire au 15 mai, dont on attend les effets encore à date. Mais c'est vrai que le manque de stabilité institutionnelle actuelle n'aide pas, évidemment, à ouvrir les vannes de la rénovation énergétique.
Donc ça, c'est à suivre. Alors maintenant, si on se concentre sur Grenoble, déjà l'état des logements en matière de performance énergétique.
Eh bien, Grenoble se situe dans la moyenne nationale avec à peu près 18% de passoires thermiques.
Plutôt une bonne candidate.
C'est une bonne candidate, en effet. avec pratiquement 95% de logements qui sont des appartements, donc potentiellement aussi des clients pour l'interdiction à location de la loi climat et résilience qui entre progressivement en vigueur, d'où l'objectif de rénover, et notamment les copropriétés.
Et sur les classements, DPE, sur les lettres, est-ce qu'on a des idées plus précises, notamment à Grenoble?
Tout à fait.
Il y avait une répartition.
Alors,
ouais,
on a 18% de F et G.
18% de F et G.
Exactement. Ouais. Donc, comme je le disais, c'est grosso modo moyenne nationale, avec quand même pratiquement 27% de E. Donc, il y a quand même une petite marche à faire. On a près de 50% de logements EFG.
Il faut rappeler
pour ceux qui ont un DPE.
Au 1er janvier 2025, normalement, oui, sauf modification, les étiquettes F et G seront retirées.
1er janvier 2025, ouais, G.
Et 28, c'est F.
28, c'est F ouais, et 34, E.
Ouais. Donc 18%, c'est juste colossal, hein, quand on y réfléchit.
Ouais, ouais.
Parce que c'est des appartements qui sont des maisons louées parfois sur le parcours résidentiel.
Sur des choses aussi concrètes, vous avez accompagné une copropriété à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
72 logements répartis sur deux bâtiments, une étiquette avant travaux à E, une étiquette au DPE E. On a fait donc plusieurs gestes de rénovation, donc une isolation thermique par l'extérieur, des planchers bas, des toitures terrasses, tout ça, l'installation d'une ventilation hybride hygro-réglable et le remplacement des menuiseries. Donc c'est un montant de travaux de plus d'1,5 million, ce qui est quand même colossal.
Pas neutre.
Mais pour lequel on a réussi à flécher donc certificat d'économie d'énergie et les primes MaPrimeRénov'CoPro, voilà, confondus, plus de 500 000 euros.
Ah oui, donc plus d'un tiers.
Voilà, exactement. Plus du tiers du montant des travaux, ce qui évidemment participe à faire baisser significativement le reste à charge des copropriétaires. Et on arrive à une étiquette, pardon,
ah oui, alors,
essentielle,
quand même,
D.
Eh oui, quand même, on arrive à D.
À l'issue des travaux, D, et 48% de gains énergétiques.
De gains énergétiques. Est-ce qu'on arrive assez bien, voilà, dans le public, soyez, voilà, le public, merci. Est-ce que les copropriétaires arrivent à financer le reste à charge? Est-ce qu'il y a des solutions de prise en charge? Parce que Margot, tout à l'heure, vous en parliez, des petits propriétaires qui n'ont pas forcément toujours les moyens de rénover. On sait que les municipalités aident aussi les copropriétés quand elles le peuvent. Comment on peut faire pour financer le reste à charge?
On a une prolongation de l'éco-prêt à taux zéro. Et a priori, c'est le meilleur moyen de financer ce reste à charge, qui reste significatif, évidemment. Voilà, c'est de contracter un éco-prêt à taux zéro.
Ensuite, il y a le réseau de chaleur à l'échelle de la métropole de Grenoble, et là, vous accompagnez. Vous pouvez nous expliquer aussi.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Grenoble, c'est le deuxième réseau de chaleur de France métropolitaine, ce qui est particulièrement significatif. Mmh. Et en effet, Elio accompagne les gestionnaires de bâtiments tertiaires et de résidentiels collectifs au raccordement au réseau de chaleur. On est signataire de la charte coup de pouce chauffage. Ce qui permet, en fait, c'est un dispositif qui s'ajoute aux aides qui existent pour inciter d'autant ces gestionnaires de bâtiments à se raccorder à un réseau plus, ou en tout cas un réseau de chaleur, si possible plus propre, c'est-à-dire alimenté avec des énergies renouvelables ou de récupération. Et on a, à l'échelle donc de la région, la commune de Lamure, qui est voisine, on a accompagné la commune au raccordement de 3 de ses bâtiments publics. Donc c'était un complexe sportif, il y avait un groupe scolaire, halle des sports et gymnase Jean Morel, et on a réussi à flécher 150 000 euros d'aide pour les accompagner.
Voilà, pour l'essentiel. Merci. Une chose à rajouter, Pauline? Optimiste?
Oui, il faut. Tout à fait.
En ce moment, vous devez être optimiste. Merci beaucoup, Pauline Cordier Dubost. Un mot peut-être, Margot Bert, sur la rénovation énergétique. On le sait, c'est la préoccupation première des élus. Et c'est vrai qu'à Grenoble, vous n'êtes pas du tout inactif sur le sujet. Vous en avez fait d'ailleurs même un combat très fort.
Oui, depuis 2014, on a quasiment 2000 logements par an qui ont été rénovés en moyenne. Alors, c'est des moyennes, hein, donc ça dépend vraiment des périodes. Il y a un gros dispositif de la part de la métropole qui s'appelle Murmure, sur lequel les communes abondent aussi en accompagnement, qui permet réellement de faciliter ces démarches-là. Ça s'additionne aussi aux dispositifs nationaux et aux autres, tous les autres dispositifs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on constate un ralentissement des dossiers, parce que nous, on les voit passer sur les permis de construire et les demandes d'autorisation. Et là, on en a discuté avec l'opérateur qui travaille, qui s'appelle l'ALEC à Grenoble, l'agence qui travaille là-dessus. Et ce ralentissement, il vient beaucoup, beaucoup du moment du vote dans les AG, parce que c'est beaucoup de copro et que les gens n'ont pas toujours les moyens de financer les travaux. Donc, on a réellement besoin
d'aide massive au niveau national dans tout le territoire français hein, pour accompagner ces propriétaires.
Alors, aide massive nationale, des acteurs comme vous, Elio, qui aidez, et heureusement que vous êtes là parce que je peux vous dire qu'il y a des collectivités locales. Je prends le cas de Laval où vous avez rénové un gymnase, je crois que c'est une école absolument formidable. Vous avez trouvé plus de 500 000 euros de ressources. La mairie n'avait pas ses fonds, voilà, tout simplement. Donc, vous êtes les alliés objectifs des territoires.
On a vraiment un accompagnement dédié justement au résidentiel collectif et qui a aussi tout ce volet d'accompagnement social parce que c'est pas anodin de voter ce genre de travaux. Ça a évidemment un impact concret pour les ménages et nous on a cet accompagnement aussi de conseils et de détection des ménages en situation de précarité énergétique également.
Merci beaucoup. Oui, applaudissements pour Pauline Courbet-Dubos. Merci. Alors, merci de votre patience dans le public. Et bien, je rappelle à vous qui prenez l'émission, vous avez les quatre séquences que vous pouvez écouter une par une en podcast, bien évidemment. Très important et bien évidemment également de nous faire partager vos commentaires, puisque cette émission elle est conçue pour vous. C'est l'heure des remerciements, puisque nous finissons notre quatrième saison et nous allons aborder la cinquième saison. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation et la production. Je peux vous dire que c'est pas simple. Il y a souvent des personnes que l'on voit jamais. C'est les personnes qui sont derrière nous et qui aujourd'hui travaillent en technique. Je voudrais qu'on remercie Théo, Jason, Quentin, Baptiste, qui prennent la route avec les unités mobiles et qui vous permettent voilà d'avoir ici un décor. Merci à eux. Un grand, grand, grand merci. Merci aux équipes de tournage avec Priscilla, avec Alexandre Burkhardt et bien sûr une mention spéciale à notre producteur éditorialiste Grégoire Daricot qui est dans le public. Applaudissements. Cette saison clôture effectivement la quatrième expérience et plus de 40 villes que nous avons parcourues. Nous allons réitérer l'exercice pour 2024-2025. Également, nos partenaires avec qui nous avons conçu cette émission dès le début, avec les équipes du Figaro Immobilier, et surtout un immense triomphe à celui qui a permis également, qui a été la cheville ouvrière, c'était pas simple au début et qu'il y a cru, tout le monde n'y croyait pas au départ, mais ça a très bien fonctionné puisque nous sommes toujours là. Un immense triomphe à mon ami Olivier Marin.
Merci.
Et enfin, si vous permettez, avant de vous donner le mot de conclusion, Margot Belair, je voudrais aussi remercier nos sponsors, nos partenaires, parce que c'est grâce à vous que nous essaimons dans les territoires et que nous faisons en sorte que ces villes aient un incroyable talent, sans paraphraser notre célèbre émission. C'est important qu'on aille vous voir là, chez vous, et de parler de votre territoire, grâce effectivement aux équipes de Next City, Anne Guint, Emma Durel, Cyril Risque et l'ensemble des équipes de Next City. Merci à eux. Merci également à Elio, son président Pierre Maillard, Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques, et vous, Pauline Courbet-Dubos, qui nous accompagnez régulièrement. Merci de votre soutien. Et enfin, merci également au Conseil supérieur du notariat, une profession majeure dont on a besoin, car le notaire, c'est un peu à l'instar de notre cardiologue, le thérapeute de notre santé patrimoniale. Un grand merci à François Proust, à Myriam Barca, à Isabelle Mariano. Et oui, il faut bien que je fasse un peu de sylvanade. Merci à tous.
Et un grand merci à Sylvain Lévy-Valency. Merci à toi, Sylvain.
Merci, merci beaucoup. Margot, je dois vous dire qu'on a rencontré avec mon ami Olivier beaucoup, beaucoup d'élus locaux. Et vous êtes, et vous ferez, et j'ai plus rien à vous vendre, donc je peux vous dire, partie de ces élus locaux qu'on aime particulièrement. Vous avez une réelle compétence sur vos dossiers. On sent toute la passion qui vous anime. Et je pense, ma chère Margot, que vous incarnez cette génération dont le pays a besoin, qui s'est investi en politique, non par calcul, mais par un simple souci, celui de l'intérêt général, à la fois des populations, mais aussi de notre planète. Et de cela, au nom de toute la rédaction, je voulais vous en remercier.
Merci à vous.
À vous la conclusion.
Eh bien, juste un petit mot pour dire que je pense que c'est dans ces moments-là de crise et qu'on peut quand même réussir à inventer des nouvelles choses, et on le voit, nous, à Grenoble, on a beaucoup d'innovations qui se font malgré ces moments de doute et d'instabilité et de crise. On a besoin de stabilité pour la transition, c'est évident. Mais je pense que tout ce que là, on est en train d'emmagasiner et de créer dans le milieu de la fabrique de la ville aujourd'hui nous servira demain. Et je me souhaite vraiment d'aller vers une très belle transition pour nos villes et surtout une transition heureuse et qui donne de l'espoir et qui invite à rêver demain, un très beau demain.
Voilà. Merci beaucoup. Et à l'aube de l'été qui nous attend, nous nous adressons bien sûr la rédaction de Radio Immo et la rédaction du Figaro à l'ensemble des Français qui nous écoutent. On a besoin de confiance à l'avenir, mais on a surtout besoin d'espérer. Mais pour pouvoir espérer l'avenir, il faut rétablir la confiance, et cette confiance, elle est incarnée par ceux aujourd'hui qui sont au cœur des territoires, c'est-à-dire les élus locaux, parce que nous aimons les maires de France avec nos partenaires Elio, Nexity et le Conseil supérieur du notariat. Passez un très très bel été à toutes et à tous. On va se retrouver pour une nouvelle saison dès septembre. Nous serons avec la maire de Nantes. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bon été à tous.
Les clés de la ville. Une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.